Chapitre 31. Camille Claudel. L'amour est désir et le désir est manque. À peine le docteur Van Horst avait-il posé ses trois doigts sur le front de Mona que celle-ci se trouva confrontée, comme à la séance précédente, à son épisode de cécité devant la table de la cuisine et au vortex qui s'y formait. Et là, elle sentit qu'elle s'y noyait. D'une manière bizarre et indicible, comme seuls les états subconscients peuvent en produire, le vortex se constituait à la fois de cet horrible épisode de plongée dans le noir et d'un kaléidoscope de souvenirs très enfouis. L'extinction passagère des yeux de Mona avait, pour ainsi dire, ouvert la voie à un tunnel à travers le temps, avec des lois radicalement étrangères à la physique du monde réel. S'y télescopaient le centripète et le centrifuge dans des gouffres obscurs où perçait néanmoins une vibration de clarté. Le vertige de Mona était sans répit. Il y avait comme des irruptions telluriques de mémoire. Ici, par l'entrebâillement d'une porte, elle voyait Mamie faire un non, serein de la tête, tandis que Camille l'implorait, poing serré, dans un mélange de rage et de larmes. Là, elle percevait vaguement une immense table et des tintements de verre s'entrechoquant au nom de Colette. Ailleurs et en écho, Mona entendait la voix de sa grand-mère. Elle disait « Cela te protégera de tout ». Aucune vision n'était associée à ces mots. Il s'agissait juste d'un son en boucle, sans visage, accompagné d'une perception tactile, celle d'un fil de pêche, d'une coque en spirale très dure, pointue à l'une des extrémités et creuse à l'autre. Elle sentait le pendentif passer autour de son cou. Le tourbillon mémoriel accéléra, et le cerveau de Mona, qui en était le capitaine et le passager, ne pouvait plus suivre. Sans même que le docteur Van Horst la rappelle à elle, Mona se réveilla brusquement et, secouée par un spasme profond, fut prise de vomissements. Elle en fut honteuse. Van Horst n'avait jamais assisté à pareil résultat. Il était désolé, mais intrigué. Quand Camille revint dans le cabinet et découvrit l'état de sa fille, elle éclata d'une colère sèche contre le médecin qui bafouilla quelques mots de contrition. Mona, elle, précisa que tout allait bien et tut à sa mère la teneur de cette nouvelle expérience. Dans le métro, Camille chercha à dédramatiser l'épisode. « Quand je pense qu'il m'avait dit que ce serait du 50-50, avec toi c'est du 100%, oui. » Mais la phrase, pourtant lancée à la cantonade, terrorisa l'enfant. « Du 50-50, du 100%. » Elle se rappelait très bien cet échange entre sa mère et le médecin quelques mois auparavant. N'était-ce pas le risque de devenir complètement aveugle qui avait été évoqué ainsi? Camille fit d'immenses yeux ronds et eut son sourire en coin. « Mais pas du tout, chérie. C'était les estimations du docteur pour savoir si tu serais réceptive à l'hypnose. » La dissipation de ce malentendu réjouit l'enfant. Mais sa nausée restait tenace. Alors, revenue à Montreuil, elle troqua ce malaise pour le souvenir d'un autre vertige sur les épaules de son grand-père. Elle imprima la photographie en sa compagnie sur l'esplanade du musée et la fixa au mur de sa chambre, juste à côté de l'affiche de ce rat. Dans une allée du musée d'Orsay, une dizaine de jeunes gens, certainement élèves aux Beaux-Arts, avaient encerclé une sculpture. Il s'agissait d'un gros bloc de marbre d'où émergeait sur la face supérieure une tête de femme coiffée d'un bonnet. Les apprentis dessinateurs traduisaient sur leurs pages de carnet les reliefs de la pensée d'Auguste Rodin. La composition donnait l'impression, pour le moins ambivalente, d'une figure germant d'un matériau informe, mais aussi, par l'absence de membres, de bustes et même de cou, d'un emprisonnement dans celui-ci. Au milieu de l'assemblée silencieuse qui étudiait l'œuvre un crayon à la main, Mona nota qu'une dessinatrice gloussait en travaillant. Elle alla jeter un coup d'œil discret à son croquis. Elle vit alors qu'elle avait recopié à merveille l'œuvre de Rodin, en particulier les froissements de la pierre. Mais elle n'avait pu s'empêcher d'ajouter une bulle de bande dessinée au-dessus du portrait. Elle avait écrit « Quelqu'un aurait des bras à me prêter ? Impertinente et vacharde, la blague fit éclater de rire Mona. L'élève, flatté par la réaction de l'enfant, lui offrit la feuille avec une dédicace et un clin d'œil. Henri était certes ravi pour sa petite fille, mais se dit toutefois qu'il était temps d'accorder un tribut un peu plus sérieux à ce visage flottant à la surface du marbre, celui d'une certaine Camille Claudel, et ils se rendirent auprès d'un vaste bronze. C'était un groupe sculpté composé de trois figures, où de droite à gauche, une jeune fille nue, à genoux, lançait un pathétique appel à un homme la délaissant, tandis qu'un personnage de vieille femme aux allures de mauvais ange accompagnait celui-ci, l'encourageait peut-être, dans sa désertion. Nu, quoique couvert d'un drapé au niveau du pubis, l'homme se détournait de l'implorante en marchant d'un pas à la fois résolu et résigné, et son corps tendu était en diagonale par rapport au socle, tel un arbre incliné par les tempêtes. Il n'était pas musculeux et sa peau au niveau du torse était flétrie. Son visage était ferme dans l'expression, mais s'avérait ostensiblement décharné. Malgré cela, une impression de puissance émanait de cette silhouette grâce au galbe et au mouvement des jambes en appui, grâce aussi à l'ampleur des mains, en particulier celles qui basculaient en arrière, tenait à distance la pauvre créature à l'abandon. La figure féminine qui entraînait l'homme au loin était manifestement d'un âge très avancé, les cheveux comme des loques, le visage affreusement rabougri. En examinant le revers de la sculpture, on pouvait voir son postérieur un peu grotesque et des drapés tourmentés pareils à une cape volant au vent ou à d'horribles ailes. Elle cernait l'être en fuite, le poussait dans sa marche, les mains sur ses bras. Elle flottait dans son dos, mais son visage collait presque à son front. Sans doute lui chuchotait-elle de ne pas se retourner. Un seul rocheux irrégulier, doté de différents paliers horizontaux, servait de base au duo, tandis que l'implorante se trouvait plus bas, humiliée dans sa rage et son désespoir. La cime de sa tête penchée et coiffée d'un sobre chignon arrivait à peine à hauteur des cuisses du fugitif. Quelques centimètres seulement séparaient les dernières phalanges de l'homme en route et celles de la jeune fille à terre. Elles étaient physiquement très proches et se tenaient pourtant infiniment éloignées. La tête du vieil homme avait produit une curieuse impression sur Mona, qui remarquait l'abondance des stries comme autant de rides aux faux airs de ravin, presque des cicatrices. Non pas un visage écorché par une blessure, ainsi que l'était celui de son grand-père, incisé de la pommette au sourcil droit. Non, il s'agissait d'un visage écorché de l'intérieur, par l'inexorable besogne du temps. « Ils font peur, ces deux-là », dit Mona en désignant les personnages s'éloignant de la suppliante. « Et c'est normal, car ils symbolisent la vieillesse et la mort. Ce sont des allégories. Bravo ! Ce sont des allégories de ce qu'il y a de plus tragique dans la vie. L'horrible femme aux os saillants est une personnification de la finitude qui conduit, sans qu'il y résiste, un homme vers l'âge mûr. « Dadé, c'est quand on est vieux ?»«
Chacun a sa réponse, Mona. Moi, objectivement, je le suis. Pourtant, je ne me sens pas vieux, du moins pas quand je suis avec toi. »
Mais essayons plutôt d'interroger cette œuvre pour répondre.
La vieillesse est ici clairement une déchéance dont Camille Claudel révèle le drame en modelant partout, du bout du pouce, des aspérités.
Approche-toi par exemple de la tête de cette femme. Ses yeux sont tellement caves qu'on pourrait les croire arrachés. Il est évident que la vieillesse est indissociable de l'amenuisement physique. Néanmoins, l'artiste attire notre attention sur la dimension subjective de ce qu'est le basculement vers l'âge mûr. C'est quand, de soi-même, on choisit d'abandonner la jeunesse, quand on lui tourne le dos. Ces propos, comme ceux tenus devant un enterrement en ornant, faisaient écho à la propre situation de Mona. Elle était fière de se sentir dépositaire de l'éternelle jouvence de son grand-père. Elle en était très émue aussi, d'une émotion qui confinait au trouble. L'œuvre est en réalité une allusion au destin personnel de deux artistes, Camille Claudel et Auguste Rodin. Tous deux s'aimaient d'un amour profond, mais que contrariaient plusieurs obstacles. Rodin, à la tête du plus prestigieux atelier de Paris, était le maître de Camille. Une grande différence d'âge les séparait. Et puis Rodin partageait depuis longtemps la vie de Rose, une femme beaucoup plus vieille que sa jeune amante, une femme qui ne souhaitait pas la laisser prendre son homme, ce que l'on peut évidemment comprendre. Camille Claudel souffrait énormément de cette situation. Et malgré leur relation passionnelle, Rodin finira par lui faire savoir qu'il ne quitterait jamais Rose. Il l'épousera d'ailleurs quelques mois avant de mourir. C'est de ce choc que naît l'âge mûr. Alors, c'est Camille qui est à genoux et pleure parce que Rodin part avec Rose, qui l'entraîne par les bras, c'est ça ?
Oui, Mona, c'est ça.
Note cependant que Camille Claudel ne s'est pas lancée dans une telle œuvre simplement pour elle-même. Elle avait reçu de la part de l'État une commande officielle, ce qui lui promettait qu'une forme de consécration. Et c'est à cette occasion qu'elle travailla à cette composition inspirée de sa propre vie. Autrement dit, elle voulait que sa reconnaissance publique coïncide avec l'expression de son malheur, un malheur dont Rodin était la cause. Et ça, c'est bizarre, parce que si Rodin était son maître, on aurait pensé qu'elle dirait du bien de lui.
Oui, mais pour faire une sculpture comme celle-ci, c'est très long, très compliqué. On ne taille pas directement la matière comme on s'y emploie avec du marbre. On fait d'abord un plâtre qui va permettre de produire un moule, et ensuite on réalise l'opération de coulage du bronze. Il s'agit d'une succession d'étapes qui coûte beaucoup d'argent. Aussi, quand Rodin apprit que Camille était en train de mettre en scène cette déchirure pathétique et qui n'était pas à son avantage, il manœuvra pour que l'État ne passe plus sa commande. Il s'épargnait ainsi un scandale.
Ah, c'est sûr que si sa femme avait vu à quoi elle ressemblait, elle aurait été très fâchée.
Certes, et voilà donc Auguste Rodin, maître de Camille Claudel, qui empêche celle-ci de dépasser sa condition d'élève au moment où elle aurait pu y parvenir.
Mais regarde, il y a quand même une sculpture. On l'a devant nous.
La candeur de Mona fit songer Henri à la fameuse phrase de Friedrich Engels. La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Il lui expliqua alors les aléas de l'âge mûr. Tandis que l'État se désengageait lâchement de sa commande, un officier du nom de Tissier, ébloui par le projet, fit en sorte qu'un tirage en bronze soit réalisé pour lui à titre personnel. Cela permit la réalisation de la sculpture dans des dimensions respectables, environ la moitié de l'échelle humaine. Mona comprit alors que l'existence d'un chef-d'œuvre tenait parfois à des petits riens miraculeux, et qu'il fallait toujours rendre hommage aux pionniers qui savaient voir avant les autres le génie d'un artiste. Elle eut une pensée pour ce capitaine Tissier et lui fit un salut amical et martial, main à la perpendiculaire de la tempe. Henri éluda les crises de folie et l'épouvantable sort de Camille qui passait à côté de la gloire qui aurait dû être la sienne de son vivant, échoua dans un asile du Vaucluse. Là-bas l'attendait le froid, la faim, l'absence de soins, les pensionnaires qui hurlaient du matin au soir, et puis les délires. Dans les années 1930, bien qu'elle ait su Rodin décédé, la pauvre femme en déshérence demeurait persuadée qu'il avait émis des ordres pour qu'on continue à la persécuter. Délaissée de tous, y compris de Paul, son frère poète et ambassadeur, elle finit inhumée dans une fosse commune à l'automne 1943. Ah, que ce destin de larmes semblait sublimement inscrit dans cette naufragée, genoux au sol, hurlant sa vaine prière d'amour. L'enfant ne pouvait détacher le regard de ses doigts repliés qui s'agrippaient au néant. Quand tu regardes une œuvre d'art, Mona, tu peux être certaine que les artistes prêtent très souvent une grande attention à la représentation des mains. Essaie de deviner pourquoi.
Ben, c'est facile, c'est avec ça qu'ils travaillent.
Oui, c'est leur outil pour faire leur métier. Et c'est de cet outil que peuvent naître toutes les expressions les plus émouvantes. Les mains ont par ailleurs un immense pouvoir d'éloquence. Regarde la sculpture.
Au milieu de la grande ligne oblique, il y a ce point de césure. C'est la séparation des mains. Les paumes de la jeune femme s'écartent l'une de l'autre. L'étau des bras s'est ouvert et elle s'en trouve abandonnée. Quant à l'homme, ses doigts raidis se sont échappés. Les voilà tendus avec une vigueur qu'exacerbe le poignet musculeux et gonflé de grosses veines. Il signale l'adieu, le rejet, mais aussi l'écrasement.
« Tu sais, Dadé, c'est comme si ce qu'il y avait de plus important, c'était ce qu'il y a entre les mains, c'est-à-dire en fait, là où il y a du rien. »
« C'est tellement juste ce que tu dis. Une sculpture a beau être massive, elle se compose de pleins et de creux. Et dans celle de Camille Claudel, quelle que soit la monumentalité du bronze, c'est bel et bien le vide qui en est le sujet principal. Tout le paradoxe de l'âge mûr est là.
« Ah oui ?»«
Le vide, c'est ce qui n'est pas comblé. »«
Tu peux réexpliquer ?»«
Eh bien, vois-tu, Mona, rien n'est plus beau qu'aimer. Rien n'est plus fort que l'abstraction, l'inclination que l'on a pour quelqu'un. Quand ces sentiments sont réciproques, on ressent une espèce d'absolu. Mais ce que nous dit la sculpture de Claudel, sa grande leçon, c'est que quoi qu'il arrive, l'amour n'est jamais tout à fait comblé. Et quand bien même le serait-il pendant la courte durée de l'existence terrestre, le temps et la mort qui guettent finiront par séparer les amants.
Mais alors, c'est trop triste.
Oui, bien sûr, c'est triste, c'est la pire des injustices même. Mais comprends que cet irréductible vide, c'est justement ce qui entretient le désir. C'est grâce à cela que nous sommes vivants et que nous éprouvons les émotions les plus fortes. C'est grâce à cela que nous agissons. Cette sculpture montre l'aspect tragique de l'amour, c'est incontestable. Mais n'es-tu pas frappé par l'impression que donne l'attitude des personnages et sa composition?
C'est-à-dire que... Ah, c'est peut-être bête, mais... Voilà, il y a quand même de l'action, en fait.
Oui, ils sont mobilisés par une puissante énergie. La dynamique de la composition est celle d'une projection vers l'avant, et non d'une gravité immobile. Ce n'est pas du tout Eros contre Thanatos, les noms grecs de l'amour et de la mort. C'est Eros qui explose d'être frustré. De sorte que la leçon de cet âge mûr, c'est Platon, le grand philosophe de l'Antiquité, qui nous la donne. L'amour est désir, et le désir est manque. Mona haussa les épaules. Pour une fois, elle n'avait strictement rien compris à la démonstration finale de son aîné adoré. Ah, pensait-elle. Ce sont vraiment des histoires pour les grands, tout ça. À Montreuil, elle s'empressa de punaiser l'amusant dessin que lui avait offert l'étudiante des Beaux-Arts, tout près de la photographie où elle volait sur les épaules d'Henri. Et puis, au moment de s'endormir, elle chercha à saisir au moins des bribes de la leçon du jour. Mais tout cela s'avérait beaucoup trop abstrait pour son jeune âge. Elle sombra dans le sommeil et songea à Guillaume.